France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est une histoire à tiroir. Elle commence avec un article publié par Le Monde à l'occasion de la diffusion sur Arte d'un téléfilm adapté du livre de Marie Darrieussecq qui s'appelle Clève. L'autrice bien connue raconte dans le journal la genèse de ce roman. À cette période, dit-elle, entre 1983 et 1986, j'ai enregistré une quinzaine de cassettes audio qui me servaient de journal intime. En 2010, je m'y suis replongée. Ce sont des heures honteuses de blabla. Machin ne m'a pas invité à sa boum. Et l'amour comme sujet principal. Au départ, poursuit-elle, j'étais sévère en me réécoutant, si candide. Puis je me suis aperçue que j'avais suffisamment de recul pour y déceler du charme. Et cela a été un point de départ pour Clève. Fin de citation. C'est donc en lisant cet article en 2022 que je découvre passablement excitée l'existence de précieuses cassettes de Marie Darrieussecq dont je brûle de découvrir le contenu. Un pirate qui aurait entendu parler par hasard d'un trésor fabuleux n'aurait pas réagi autrement. Et le plus fou, c'est que la dite Marie Darrieussecq accepte de me les confier. Et je ne suis pas déçue. Les cassettes sont incroyables, émouvantes, sidérantes, drôles, je vous jure, des pierres précieuses et des lingots d'or. Mais c'est si beau et dense que je ne sais pas quoi en faire exactement, je ne trouve pas la forme radiophonique et surtout, je n'arrive pas à convaincre l'autrice de les diffuser, car je ne sais pas moi-même comment le faire. Il faudra donc attendre plus de 3 ans, en 2025, c'est le troisième tiroir, pour qu'Adila Benedjaizou, beaucoup plus imaginative, lance sa collection sur les journaux intimes, le journal de ma vie. Elle trouve alors comment raconter avec leurs auteurs et autrices et avec le recul des années ces saisissants moments d'intimité, à la fois tendres et gênants, personnels et collectifs, des archives du présent. Et Marie Darrieussecq confie ses cassettes. On écoute donc tout de suite quelques années de la vie d'une ado. Au micro d'Adila Benedjaizou.
I'll be there till the end of time. Yeah, you make me feel. Oh, you make me feel and nothing to hide. Like a virgin. Touch for the very first time.
Sainte Madonna.
Like virgin, when your heart beats next to mine.
J'ai ma voix qui mue.
Semble que je chante mieux d'habitude. Normalement, ça se brise pas quand je monte haut, là-haut, très haut, sur les cimes. Na 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 na, c'est plus haut. Find a picture of you. Je sais plus. En tout cas, tous ces vieux rêves de devenir chanteuse de rock et tout ça, ça m'a bien passé.
Le journal intime que vous allez entendre aujourd'hui est exceptionnel. D'abord, c'est un journal intime sonore. Celui d'une adolescente qui s'est enregistrée sur cassette pendant ses 3 années de lycée.
Ce qui me frappe, c'est mon léger accent.
À l'origine de ma fascination pour les journaux intimes,
que j'ai un peu perdu depuis, je crois,
il y a cette conviction qui sont comme la photographie de notre pensée.
Qui me revient quand je retourne au Pays Basque.
C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement accès à l'idée, mais aussi à la manière dont elle a été formulée, les mots, le ton d'une époque. Alors quand le journal intime est sonore, c'est encore mieux. C'est comme si la photographie prenait vie. Le journal de ma vie, épisode 2, Marie. Mais ce qui rend ce journal encore plus précieux, c'est que c'est celui de Marie Darrieussecq, qui a accepté de le réécouter avec moi et que vous allez entendre tout au long de cet épisode. Dans l'hypothèse improbable où vous ne connaîtriez pas son travail, je vous engage à lire l'un de ses romans. Et je vous recommande plus particulièrement Clève. Pour ce livre, qui est le récit de l'éducation sentimentale d'une adolescente du début des années 80, Marie Darrieussecq s'est inspirée de son propre journal. Mais au-delà du séisme de l'adolescence, ce que nous raconte le journal de Marie Darrieussecq, c'est comment le désir opiniâtre d'écrire fabrique une écrivaine et comment la fiction peut nous aider à échapper aux secrets de famille, à la solitude, à la mort.
J'avais autour de moi des copines qui tenaient leur journal, j'avais entendu parler de cette pratique, mais moi j'écrivais déjà de la fiction. C'était ce qui m'intéressait, d'inventer des histoires. Je me suis toujours réfugiée là-dedans, dans l'imaginaire, dans la fiction. Or, il me semblait que c'était pourtant important de garder trace, mémoire de ce moment, cette adolescence. Et comme j'avais littéralement la flemme d'écrire ce qui s'était déjà passé, parce que ça ne me laissait pas la latitude d'inventer, je me suis mise à enregistrer. C'était moins fastidieux que d'écrire.
Et j'ai... Ah, c'est horrible, j'ai toujours qu'une crainte, c'est que, en écoutant ces cassettes, je me dise... Oh, mais t'es très con. Et surtout, t'as le melon. J'ai pas le melon. Même si je parle de moi. Peut-être que j'ai dit des trucs où j'avais le melon. Mais alors, parce que si j'ai pas le melon sur cette cassette, ou faut-il que j'ai le melon? Si c'est pas dans mon intimité. Enfin, voilà.
Je me rappelle lutter constamment dans ma tête entre la peur d'être égoïste et prétentieuse, comme bon, ma mère me le répétait, elle voulait m'éduquer, quoi. Elle avait peur. Et puis c'était une éducation de fille, donc on n'avait pas le droit de se mettre en avant, d'avoir une très grande ambition, comme j'avais déjà en fait. Je voulais être écrivaine, écrivain, on disait à l'époque. Donc j'avais peur d'être égoïste et prétentieuse, mais j'avais aussi une très faible estime de moi, en fait.
Et puis. Je suis bien seule. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis bien seule. Loin du bahut, toute seule dans ma chambre. Il n'y a que comme ça que je suis bien. Il n'y a personne qui me regarde. Il n'y a personne qui porte de jugement sur moi. Je suis vraiment moi-même. D'ailleurs, j'essaie tout le temps d'être moi-même. Je trouve que... Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les miens. Personne qui a mes enthousiasmes et mes cafards aussi. Je dois être super trop excessive. Y a personne qui comprend que vraiment je puisse m'enthousiasmer sur des trucs cons comme regarder la mer. Regarder la mer, c'est tellement beau. Y a rien de pire que la mer. Personne n'a des ambitions comme moi. Tout le monde me reproche ces ambitions. Elles comprennent pas que j'ai envie d'aller en Californie, que j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, que j'ai envie d'être la meilleure.
Je suis donc d'ascendance basque et la Californie était le mot pour le grand départ, le mot pour la fortune, le mot pour un ailleurs. Il se trouve que la Californie ressemble objectivement au Pays Basque. J'ai envie de dire à la petite fille, là, quand même, à l'ado qui parle, tu iras, ça sera bien, tu verras, mais ça va brûler aussi.
Que le monde est petit, mon Dieu. Oh, j'espère qu'il y a d'autres planètes habitables ailleurs. Et il faut que j'aille vivre aux États-Unis, mon Dieu, il faut. J'arrête pas de rêver que je suis aux États-Unis. Alors c'est pour ça, si j'y reste en France, vraiment, ma vie sera vraiment horrible. Et quand on court en gym, c'est dur de courir 12 minutes comme ça sans s'arrêter. Alors je rêve que je fais le marathon de New York. Je suis soit avec Matt Dillon, soit avec Michael Jackson. Je fais le demi-marathon, parce que je veux pas me crever. Et il y a des reporters qui sont là. Et voilà les deux stars, clac clac, les photos, tout ça. Et puis, je m'écroule à la fin des 20 km. Et Michael ou Matt continue. Il me fait un signe d'encouragement, tout ça. Je suis pas du tout amoureuse d'eux ni rien. C'est vraiment, vraiment une camaraderie formidable. Voilà.
Il faut savoir que la chambre dans laquelle j'enregistre est une chambre entièrement décorée de logos américains. J'ai un pouf Coca-Cola, mes rideaux, ma mère a trouvé ça, c'est du tissu imprimé Manhattan avec la ligne des gratte-ciels où il y a encore le World Trade Center, les deux barres là. J'ai une plaque jaune, taxi jaune de New York, j'avais beaucoup de posters. Et puis oui, alors Matt Dillon et Michael Jackson, mes grandes idoles de l'époque, waouh.
Et puis il y a Jean aussi, mon frère qui...
Voilà, le dossier.
Je reproche un peu à papa ou maman, enfin c'est plutôt à maman de me le dire, vu que la société est foutue comme ça. Qu'elle ne m'ait jamais dit que j'avais un frère qui est mort, à la peur que ça me traumatise ou quelque chose comme ça. Ça ne m'a pas vraiment traumatisée quand je l'ai appris. J'avais 10 ans et j'avais regardé ça par hasard dans le carnet de santé. J'ai vu mon nom, Marie Dariussec, puis la page juste avant... Je vois Jean Dariussec, il aurait 19 ans. Tu sais, il y a une petite bande dessous, décédez-le, elle me fait peur cette bande. Il y avait marqué décédé le 26 août. Il avait vécu 2 jours.
Mon frère, cet enfant que mes parents ont eu avant ma naissance, qui est mort avant ma naissance, c'est un fil conducteur. Dans tous mes romans, il y a un enfant mort et cette absence était colossale à la maison. Mes parents ne me l'avaient pas dit. Je fais un lapsus, c'est pas dans le carnet de santé, mais c'est dans le livret de famille, parce que j'ai pas les mots, en fait, que j'ai découvert que j'avais eu un frère, que je n'ai donc pas connu. J'avais surpris une conversation derrière une porte, c'est très classique. Ma mère pleurait, elle parlait à une amie qui était très enceinte, et elle parlait de Jean. Et je me disais, qui est ce Jean qui fait pleurer ma mère et dont je n'ai jamais entendu parler?
Et Jean, souvent j'y pense. Je me dis que ça aurait été bien d'avoir un grand frère. Oh, vraiment bien. Surtout de 19 ans. J'aurais peut-être préféré 17, mais 19 ans c'est chouette. Je l'imagine beau, bien fringué. Pas spécialement papa cool comme moi, non, peut-être plutôt miné. Mais il aurait été sympa. On se serait pris par le coup, on se serait vraiment aimé comme frère et sœur. J'aurais pas trop emmerdé, je crois. Enfin, je crois qu'on se serait pas disputé. Et puis, tous les combats auraient été faits. Aller en boum, sortir, tout ça, c'est lui qui les aurait fait. Il m'aurait peut-être emmené avec moi, j'aurais connu des mecs, et j'aurais connu notre société aussi. J'aurais connu un autre monde, le monde des gens qui ont 19 ans en ce moment.
J'allais pas très bien quand même. J'étais dans une famille dont j'ignorais qu'elle était en grande souffrance. J'ignorais que mon père et ma mère souffraient autant. À 14 ans, quand on apprend qu'on a des parents qui ont perdu un enfant, leur douleur est inimaginable. Je faisais avec. Et bizarrement, ce chagrin, j'avais moi aussi du chagrin d'avoir pas connu, d'avoir pas eu ce frère. Donc je l'imaginais à la place. C'était à la fois assez destructeur et consolateur. Et ça a probablement développé, effectivement, ma capacité à la fiction, mais comme quelque chose qui me tenait debout, quoi. Et je respecte aussi le silence des gens qui sont très endeuillés. Il faut faire autrement.
Heureusement pour elle, Marie ne bénéficie pas seulement du pouvoir de la fiction, mais aussi de ce super pouvoir propre aux adolescents, de passer du plus profond désespoir aux questions les plus triviales. Ainsi, malgré son deuil, Marie a les mêmes préoccupations que toutes les adolescentes du monde entier. Et comme toutes les adolescentes du monde entier, elle se parle à elle-même.
Tu seras pas branchée, tu seras pas avec un groupe, tu sortiras pas avec un mec. C'est vachement important, tu te rends pas compte, Marie. T'es pas normale. Il faut que tu sortes avec un mec, c'est une obligation.
Cette obligation, je le dis très bien, de sortir avec un mec, à la fois pour être accepté dans un groupe, pour être populaire. On disait pas le mot populaire à l'époque, mais pour être normal, comme je dis aussi souvent, je crois, et faire partie du groupe, c'était très important.
Oui, alors, je continue en Angleterre. Donc, dans cette boîte, il y a eu un grand cercle autour de moi. Tout le monde applaudissait et tout. C'était vraiment merveilleux.
Quand on a 15 ans et qu'on se débat avec le regard des copains du lycée, c'est souvent les vacances qui représentent la liberté.
Dans leur coin, là, elle se mêlait pas de mes affaires. Après, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Where did you learn to dance ?» J'ai dit « Nowhere ».
Et pour Marie, ces vacances ont lieu en Angleterre, dans la famille de sa correspondante, qui l'emmène pour la première fois danser en boîte.
Il y a ma grande amie noire là qui m'a dit « Viens, viens, viens !» Elle me tire par la main. Elle me conduit à l'autre bout de la boîte. Puis elle me dit, il y a celui-là qui veut te parler. Un grand noir. Pas mal d'ailleurs. Et l'autre me prend par l'épaule et il me dit, I want a kiss. Alors, I want a kiss. Je me rappelle plus très bien ce que j'ai dit. Et puis, j'ai pris le parti d'un arrêt, mais vraiment d'un arrêt aux éclats. Puis c'est parce qu'il m'a pris. J'ai sauté au cou, je l'ai embrassé. Mais il a eu un tel mouvement de recul qu'en fait, j'ai juste effleuré les lèvres. Il m'a pris par la main, et puis, alors là, il m'a roulé une pelle terrible. Première pelle de ma vie.
C'était important parce que je venais quand même d'un univers qui s'ignorait raciste. Tout le monde était blanc, hein, dans mon lycée, dans mon collège. Il y avait un jeune arabe qui était un fils de consul marocain, si je me rappelle bien. J'avais pas de copain noir, et ça me manquait en fait. J'avais envie d'accéder à... J'espérais d'autres univers, voilà. Ce garçon était plus âgé que moi, je pense qu'il avait 18 ans. On est sortis de la boîte de nuit pour aller dans les rues de cette petite ville, déserte. Et on s'est embrassés, c'était merveilleux. Et je me suis rejouée à ces baisers dans ma tête pendant des mois et des mois après, en étant transi de désir en fait. Mais c'était pas de l'amour. C'est aussi une période de ma vie très importante où j'ai séparé, peut-être parfois trop, hein. Enfin, mais c'est comme ça que je suis... bâtie, la sexualité et l'amour. C'était une façon aussi de se protéger de l'amour.
3 janvier 1985. Alors, je me suis un peu laissée dépasser par les événements. Il y a eu ce fameux premier de l'an. Alors, je vous raconte pas tout le long de détails parce que c'est beaucoup trop long. J'ai commencé à danser du slow avec Jean-Yves, avec Christophe, copain à Jean-Yves, le clavier de Yong Se-kyung. Et puis, il a commencé à déconner, à me dire « Ouais, tu connais le slow horizontal, je serais super et tout. » Alors, il me prenait par la taille, les épaules et tout. Puis, tout à coup, j'ai senti une langue insidieuse s'insinuer entre mes lèvres, n'est-ce pas? Et voilà, on est sortis ensemble, dive, vraiment dive. Je fondais, n'empêche, j'étais toute mouillée entre les jambes, c'était... J'étais toute excitée, lui aussi d'ailleurs, je crois. C'était génial.
Je me rappelle très bien de Christophe, oui. Je commençais à avoir la permission d'aller à des booms. Et c'était pour sortir avec des garçons, bien sûr, c'était ça qu'on cherchait. Je me rappelle très bien d'embrasser Christophe dans cette espèce de tas de manteaux, là, dans la boum, mais plus très bien de la suite, à vrai dire.
La suite qu'a oublié Marie implique Christophe, mais aussi Jean-Yves, ami de Christophe et de Marie, et qui joue à la fois le rôle de confident, de témoin et de messager dans un échange épistolaire tourmenté.
Samedi 5 janvier 1985, d'état d'événement. Donc, je me demandais si Christophe allait continuer à sortir avec moi ou pas. Et puis, Jean-Yves me dit le matin, « Oui, Christophe doit me donner une lettre pour toi. » « Ah, me dis-je. » Il me dit, « Oui, Christophe m'a donné la permission de la lire avec toi. » Bon, on a lu la lettre. Enfin, il me disait qu'il voulait plus continuer à sortir avec moi. Mais c'était vraiment très marrant. Je l'ai gardée d'ailleurs précieusement parce qu'elle sent son parfum.
Ah oui, le même, je me rappelle de son parfum.
Le soir du réveillon. J'ai absolument pas envie de passer pour la veuve éplorée. Enfin, j'ai écrit à Jean-Yves donc j'étais presque soulagée à la limite que ça s'arrête là parce que je voulais pas sacrifier à Christophe mon indépendance, je voulais pas lui sacrifier des copains. Mais j'avais un peu envie que ça tombe sous les yeux de Christophe aussi pour qu'il comprenne que je suis un peu pareil que lui. Et très profondément dans moi, je me dis, après tout, est-ce que c'est vraiment fini? Si Christophe arrive à me connaître mieux, s'il voit que j'ai les mêmes idées que lui sur l'indépendance et tout, peut-être qu'on pourra sortir ensemble, deux indépendants, deux solitaires.
Je pense que je suis piquée au vif par cette lettre. Et sans être amoureuse de ce Christophe, je n'ai pas de chagrin d'amour là, mais je suis vexée. Et puis en plus, je dois la lire avec Jean-Yves, quelle drôle de situation. C'est vraiment les liaisons dangereuses au Pays Basque dans les années 80. Et en fait, je rêve d'une grande histoire d'amour. Je voudrais connaître ça et je fais la fière, je veux être indépendante, mais pas du tout.
Si Marie essaye parfois de dissimuler des choses à ses amis, ce qui caractérise son journal, c'est qu'elle est toujours très sincère avec elle-même. Ce qui nous permet de toucher du doigt la liberté des désirs adolescents.
Finalement, elle a dit « ça te gêne pas si on dort ensemble ?» Alors non, parce qu'elle voulait continuer à discuter. On a discuté un grand moment. Et puis, elle est venue se blottir contre moi. Et puis, on a commencé à parler de l'homosexualité et tout ça. Si ça nous gênerait de faire l'amour avec une nana, tout ça. Si on se sentait attiré l'une par l'autre, etc. Puis j'attendais, je me suis dit non, je fais pas le premier pas, je peux pas. Puis elle m'a dit, ça te dirait de faire l'amour avec moi? C'est dingue que je suis cool, n'empêche, dans ces cas-là. Parce que quand je me dis ça en rêve ou n'importe quoi, quand je fantasme un peu, ça me fait des chocs d'adrénaline. Là, rien du tout, super cool. Je lui ai dit, ouais, ça me fait un peu peur, mais pourquoi pas, enfin, j'ai répondu un truc comme ça. On a commencé à faire l'amour, quoi. À se caresser, à... Elle a enlevé son t-shirt, j'ai commencé à lui mordiller la poitrine, à la caresser partout. N'empêche, j'étais super cool. Mais vraiment, j'ai l'impression que je serais très bonne à faire l'amour, avec une fille ou avec un mec. Je sais pas, je trouvais des petits trucs, des caresses, tout ça. En fait, elle était plus nulle que moi, c'est vrai. Elle se laissait un peu faire et quand elle essayait, je sais pas, c'était moins bien, sans vouloir me vanter. J'explose de sensualité.
Je pense que si j'étais née dans une grande ville, j'aurais probablement été, comme on disait à l'époque, donc ce mot bisexuel. La vie a fait que je me suis passionnément intéressée aux hommes. Je me rappelle aussi d'une jeune fille, femme, moi donc, dans les années 80, qui avait beaucoup de sang-froid. J'étais capable d'affronter des situations pour lesquelles j'étais pas préparée. J'avais une espèce de bouclier magique qui me faisait explorer le monde, y compris sexuellement. Moi, je me suis masturbée très très tôt. Enfin, j'ai découvert mon corps avec beaucoup de plaisir. Je ne me rappelle pas d'une période où je ne l'ai pas fait. Et bien sûr, personne n'en parlait à l'époque. Et d'ailleurs, on en parle toujours très peu aujourd'hui. Mais j'ai toujours exploré mon corps avec beaucoup de plaisir, en étant consciente que c'était un grand secret.
Maintenant, j'ai envie de coucher avec quelqu'un. J'ai vraiment envie de faire l'amour maintenant. Et oh, en même temps, ça me fait toujours aussi peur. J'ai peur de la douleur. Je suis tellement étroite. Mais j'ai envie de faire l'amour avec quelqu'un, ouais.
L'injonction à perdre sa virginité, c'est très particulier. C'est un moment historique du temps. Après des siècles et des millénaires où il fallait rester vierge, dans les années 80, en France et dans des coins paumés de province, il fallait perdre sa virginité le plus vite possible, en fait, pour ne pas être une oie blanche, une cruche, enfin, il y avait plein de mots. Et il fallait la perdre, mais ne pas être une salope non plus, quoi. Donc c'était une double contrainte, ce qui pesait sur les filles.
On a le sentiment que c'est précisément à ça que sert le journal de Marie. Résister aux contraintes, quelles qu'elles soient. Désirer qui elle veut, mais aussi désirer ce qu'elle veut.
Et j'ai un père qui est un vrai patriarche, mais qui est aussi quelqu'un d'une grande liberté. Mon père avait perdu son fils, ne me le disait pas, ne le disait à personne. C'était une blessure ouverte. Il aurait aimé un garçon. Quand je suis née, il ne savait pas quoi faire d'une fille. Mais il m'a aimée beaucoup, ça je n'en doute pas. Il était aussi fier de moi à sa façon. Et il m'a élevée à la fois comme une fille et comme un garçon. C'est-à-dire que comme fille, je ne devais pas du tout déborder sexuellement, je devais me tenir bien. Mais comme un garçon, j'avais le droit de fumer, j'avais le droit de boire, j'avais le droit de faire des études poussées. Et puis il m'a mis des bouquins dans les mains. Mon père, qui ne parlait jamais de ça, m'avait offert une machine à écrire. Tac, 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 tac. C'était ma tante qui avait dégoté cette machine à écrire dans la banque. Elle était guichetière à la BNP. Et puis après, mon père m'a ramené des fonderies où il travaillait une machine à écrire qu'il avait probablement piquée, qui était électrique, celle-là. Mon père, sans un mot, m'encourageait, en fait. Jamais il m'a dit « il faut que tu sois écrivaine ». C'était de l'ordre de... je sais pas. Et j'écrivais, oui, j'écrivais. J'étais spécialiste en chapitre premier. J'écrivais des débuts d'histoire sans arrêt que je ne terminais jamais. Ça a été tout un apprentissage personnel de savoir terminer un roman.
Au cours de l'année de première, dans le journal, l'angoisse du futur prend le pas sur les questionnements amoureux. Faut-il ou pas faire une classe préparatoire aux grandes écoles ? Marie hésite à sacrifier ses années d'insouciance pour assurer son avenir.
C'est mes parents, c'est la société, tout ça qui... la société... qui font que je me dis, il faut que tu fasses ta prépa et tout. Mais je sais bien qu'au fond de moi-même, j'en ai pas envie. Et si je me dis que j'en ai envie, c'est par conditionnement. J'ai pas envie, évidemment, de me précipiter dans un truc où j'aurai le temps que de bosser. En même temps, il faut. Mais il faut. Oui, il faut, c'est tout. J'ai pas à me poser de questions là-dessus. Il faut, c'est comme ça, c'est le système. Mais je supporterai jamais de devoir me condamner à... au bouquin sans arrêt, alors que pour moi le plus important c'est de parler avec des gens, de voir des gens, c'est ça le plus important, c'est de vivre avec des gens, et puis d'écrire.
Moi j'avais un destin dans la littérature, je le savais, c'est un truc de dingue, je le savais, je m'étais donné jusqu'à 40 ans pour être publiée, ça devait me paraître très vieux, mais si je n'avais pas été publiée, j'aurais fait une dépression létale, en fait. J'en serais morte, vraiment. Je le sais aujourd'hui. Psychiquement, je ne tenais qu'à un fil, qui était celui d'écrire et d'être publiée. Il fallait les deux. Et donc, toutes ces injonctions contradictoires, mais très pieds sur terre, me travaillaient. Je me disais, comment je vais pouvoir organiser une vie où j'ai le temps d'écrire, la chose la plus importante pour moi, mais où je gagne ma vie? Et où peut-être aussi j'ai un petit bout de bonheur.
Je vais vers un avenir qui est bien tracé finalement, mais plutôt sombre. Vers lequel j'ai pas envie d'aller. Du tout. Je vais essayer de faire des études en essayant de m'amuser le plus possible. De tenir le coup. Et de surtout, Marie, surtout, te laisse pas en belle difficulté, emmêlée dans tes états d'âme. Essaye de les surmonter un peu. Je fais une année d'hypocagne en tout cas. Bon, ça, il faut quand même que j'arrive au bout. J'essaierai de prendre le concours où il y a le moins de travail. Je veux dire, pour après. Puis j'écris. Ça, il faut que j'écrive. Ce qui me fait chier, c'est que le bouquin que j'écris en ce moment, je sais très bien que dans 2 ans, il sera caduc vis-à-vis de moi. Que ce sera dépassé, que j'aurai encore mûri. C'est maintenant qu'il faut que je le publie, maintenant ou jamais.
Je voulais faire une prépa, mais j'en avais peur. Quand même, il faut s'y rappeler que ma mère, sa langue maternelle, c'est le basque, qu'on lui interdit de parler basque à l'école, qu'elle vient pas du tout d'une famille lettrée du côté français de la force. Et ce que je me rappelle très bien, effectivement, c'est que je n'ai absolument pas envisagé autre chose, d'aller en fac ou de faire, je sais pas, autre chose. Je me rappelle que j'avais compris qu'à Normale Sup, pendant 4 ans, on était en plein Paris. Ça, c'était le rêve. Et après, la Californie. Et que j'aurais le temps d'écrire. Je le savais, je voulais ça.
3 juillet 1986. Hier soir, c'était une fête pour fêter le bac. Je sais pas comment le dire, mais j'ai fait l'amour pour la première fois et ça s'est très très bien passé. Je crois que mon journal va s'arrêter là. J'enterre plein de choses. J'ai eu mon bac, je suis plus vierge. Tout ça début juillet. Je crois que je vais arrêter là. Je suis plus une petite fille.
J'ai eu mon bac, je suis plus vierge. Quel programme ! Eh bien, bravo Marie, c'est bien.
Pourquoi il s'arrête là, le journal, alors ?
Il s'arrête là parce que je pense que j'en avais marre, que c'était aussi une sorte d'obligation que je m'étais faite d'enregistrer ces moments de ma vie. Je pense que j'ai conscience que c'est une période qui se clôture, je le dis bien. J'ai mon bac et je suis plus vierge. Je pense qu'à 14 ans, je me sentais très seule et j'étais probablement assez malheureuse. Et à 17 ans, je suis beaucoup moins seule, j'ai beaucoup d'amis, j'ai une histoire d'amour et je suis plus heureuse, tout simplement. Est-ce que le journal naît de la solitude et de l'angoisse ? Quand même beaucoup, je pense.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la Marie qui s'enregistrait à l'époque ?
J'ai envie de lui dire ça va aller. J'ai eu de la chance, j'ai envie de lui dire ça à la gosse là. Ça va aller, mais parce que en fait, les choses font que malgré des écueils de départ et malgré le très grand deuil que tes parents n'arrivent pas à affronter, tu vas trouver des ressources pour t'en sortir, voilà.
C'est peut-être plus joli un peu plus haut. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Se va a traer coronices para ti, se va a traer muchas cosas para ti. Si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y chas le come la patatita, chica poca chica.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo.
C'était le journal de ma vie, deuxième épisode, avec Marie D, un reportage, un documentaire, que dis-je, d'Adila Benedjaizou, réalisé par Clémence Grosse et mixé par Olivier Arnay. Merci bien sûr à Marie Dariussec, à Cyrus Mohammadi, à Rebecca Warrior qui signe la musique de toute cette série. Merci également à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, à Luce Mourant et à Mina Morel, les stagiaires. Et je signale que Clève, le roman de Marie Dariussec, est publié aux éditions POL.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, no le pagan, sí, va tosiendo, sí, va de luto, sí, duramente, sí.